Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins se demandent tous les jours ce que l'argent ne saurait acheter en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Tristan Grenatia, Antoine Ravon et Samuel Legendre, à la réalisation précieuse Mydia Portis-Guérin, à la lecture sans prix Georges Clès, à l'interprète Au-delà des mots Xavier Combes, avec aujourd'hui à la prise de son José Bernays. À 10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui l'ouvrage de Richard Memto, Pop Culture, paru aux éditions de La Découverte. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole aux philosophes contemporains pour tenter de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Parution d'ouvrages philosophiques mais aussi séminaires et festivals, autant de façons de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Alors après les croyances d'Henri Atlan, les rêves d'histoire de Philippe Artière et Avital Ronel, avant Dorian Astor et la détresse du présent de Nietzsche la semaine prochaine, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir en studio à la Maison de Radio France le philosophe américain Michael Sandel, professeur de philosophie politique à Harvard, qui s'est fait connaître en 1982 avec Le libéralisme et les limites de la justice, un ouvrage qui proposait une critique de la théorie de la justice de John Rawls et qui s'est fait connaître bien au-delà du monde universitaire en 2009 avec la diffusion télévisée de ses cours sur la justice, aujourd'hui tous disponibles en ligne, des cours rassemblés en un livre, Justice, What's the Right Thing to Do, un livre qui de manière incompréhensible n'a jamais été traduit en français, alors qu'il a dépassé le million de ventes en Asie du Sud-Est. Michael Sandel vient de faire paraître un nouveau livre qui lui, heureusement, a bien été traduit en français par Christian Clerc aux éditions du Seuil, intitulé donc en français « Ce que l'argent ne saurait acheter ». Bonjour Michael Sandel.
It's good to be with you.
This is a course about justice, and we begin with a story.
C'est votre voix que l'on vient d'entendre, Michael Sandel. C'est un grand plaisir d'avoir cette discussion avec vous. Vous êtes en faveur, vous prenez les avantages de la discussion en général, on va y venir. Mais je voulais qu'on entende votre voix qui est disponible dans les extraits de vos cours, les extraits en ligne. On l'a entendu, il y a un monde fou qui vient assister à vos cours. Vous êtes une forme de star de la philosophie aux États-Unis.
Well, when we did this experiment and put the made the course freely available,
lorsque nous avons lancé cette expérience et décidé de mettre le cours sur Internet gratuitement, on n'avait aucune idée de ce succès. Moi-même, j'ai été abasourdi de voir qu'il y avait des dizaines de millions de personnes partout dans le monde désireuses d'assister à des cours de philosophie sur Internet. Et pourtant, c'est la réalité. Et ce là a créé une possibilité incroyable pour moi de parcourir le monde et participer à des discussions, des dialogues, des conférences interactives avec des publics dans des sociétés radicalement différentes les unes des autres. Et j'ai pu aborder des questions de justice, d'éthique. Et nous avons parlé de ce que devrait être le rôle de l'argent dans les marchés. Une expérience des plus étonnantes.
Et on l'a entendu, vous commencez à votre cours en disant Let's have a story, ou prenons un exemple, prenons une histoire. Et dans votre dernier livre, Ce que l'argent ne saurait acheter, vous vous basez énormément sur des cas concrets, des exemples, comme si la théorie, parce que c'est aussi un ouvrage avec une thèse très claire, une thèse qui s'inscrit dans une histoire de la philosophie, notamment sur la justice, comme si donc cette réflexion-là ne pouvait pas se passer d'exemples concrets, ce qui explique sans doute que vos cours sont accessibles à des gens qui n'ont pas forcément une grande connaissance de l'histoire de la philosophie.
Well, the reason for using the stories and the examples.
Pourquoi est-ce que j'utilise des histoires et des exemples, que ce soit à caractère pédagogique ou dans cet ouvrage? Eh bien, c'est parce que je veux montrer que la philosophie, ce n'est pas une activité abstraite que l'on trouve quelque part dans les nuages. La philosophie est dans le tissu des dilemmes auxquels nous sommes livrés dans notre vie au quotidien. quotidien et évidemment dans notre vie publique et dans nos débats politiques.
So that's one reason for using
voilà une raison pour laquelle j'emploie ces histoires et ces exemples. Il y a une autre raison. Je veux que la philosophie soit accessible à des lecteurs qui ne sont pas forcément versés dans la philosophie ou qui ne l'ont pas forcément étudié, mais qui sont néanmoins curieux et qui veulent s'intéresser aux grandes questions éthiques que nous nous posons dans notre vie.
And so, just as you say, there is,
comme vous l'avez justement dit, il y a un argument philosophique, une sorte de thèse implicite, certes, et qui sont en creux des histoires et des exemples que je donne dans cet ouvrage. Mais je veux que cet argument philosophique soit accessible et clair pour le plus grand nombre, et pas simplement des universitaires.
En tout cas, c'est réussi, puisque je crois que ce livre est vraiment accessible. J'ai fait l'expérience autour de moi à des gens qui n'ont jamais fait d'études de philosophie, qui ne connaissent pas forcément ce qui se trouve dans les ouvrages de John Rawls, par exemple, qui est un de vos interlocuteurs, que vous critiquez beaucoup. Vous avez écrit un ouvrage, je l'ai rappelé, qui s'opposait clairement à la philosophie de la justice selon John Rawls. L'ouvrage est très clair, on pourrait en présenter, disons, la thèse, l'angle. Je vous lis, hein, vous écrivez, « Nous n'avons plus une économie de marché, nous sommes devenus une société de marché. » Et donc, vous voulez dénoncer ce glissement, disons, de l'avoir vers l'être, de quelque chose qui nous est extérieur à ce que nous sommes devenus. C'est un enjeu qui est non seulement philosophique, mais anthropologique. Maintenant, l'homme est devenu le marché lui-même.
Yes, the difference is this.
Oui, mais il y a une différence. L'économie de marché, c'est un outil, d'une certaine efficacité et qui s'occupe d'organiser l'activité de marché. Mais une société de marché, c'est une société où tout est à vendre. C'est une sorte de mode de vie. Et les valeurs de marché, la réflexion de marché commence à dominer tous les aspects de la vie. Les relations personnelles, la vie de famille, les soins, l'éducation, les médias, la loi, la vie civique. Et la question que je pose est la suivante. Est-ce préoccupant? Est-ce que nous devons nous préoccuper du fait que notre société devient une société de marché? Et si oui, pourquoi? Pour quelles raisons philosophiques pouvons-nous déterminer quels biens peuvent être vendus et achetés sur le marché et quels biens et quelles pratiques sociales doivent être régies par d'autres valeurs non commerciales.
Ce qui définit le rôle du philosophe dans cette question-là, qui préoccupe chaque citoyen, puisque votre réflexion essaye de s'ancrer dans le quotidien de chacun des citoyens, de par les nombreux exemples que vous prenez, mais qui aussi montre la difficulté de ce projet, puisque d'un côté, vous voulez essayer de redéfinir ce qui, selon vous, serait en perte de sens. Vous parlez de valeurs, comment les valeurs se distinguent des normes, par exemple. Essayer de susciter une certaine discussion qui va permettre de s'accorder sur ce qui serait bien pour la majorité d'entre nous. Et en même temps, vous dites bien, vous mettez en garde contre le risque de proposer une solution. Votre rôle n'est pas de proposer une solution, c'est de réfléchir et de définir les termes du débat pour mieux discuter.
Yes, not to propose a specific solution.
Je ne propose pas de solution particulière, mais ce que j'espère faire, c'est provoquer et encourager un débat public et une réflexion publique sur les limites morale de la marchandisation. Au-delà de ça, je propose tout de même un point de vue, une perspective philosophique. Donc, j'essaye de fournir un cadre philosophique pour ce débat public que j'appelle de mes voeux sur les limites morales des marchés. On peut parler des principes qui doivent renseigner ce débat, à mon avis.
Alors, justement, avant d'en venir aux exemples, puisque comme ils sont nombreux dans votre livre, on en a pris aussi, on va pouvoir en écouter dans quelques instants, mais vous avez raison, commençons par définir peut-être le lieu où vous vous trouvez, le lieu d'où vous parlez. Je l'ai dit, votre pensée s'inscrit dans le débat sur la justice distributive. Ce débat, il est structuré notamment par la théorie de la justice de Rawls depuis 1971. On peut distinguer trois approches, des approches concurrentes. L'utilitarisme d'un côté, qui consiste à maximiser le bien-être en visant le plus grand bien pour le plus grand nombre.
Oui, c'est ça.
Le libéralisme, ensuite, John Rawls notamment. Il s'agit de respecter la liberté, les droits des individus, faire en sorte que la majorité ne vienne pas violer les droits de chacun des individus.
Oui.
Et enfin, ce qu'on appelle le communautarisme, les communautariens, qui eux ont pour objet de favoriser la vertu et la vie bonne. Et c'est cette voie-là, cette troisième voie que vous tentez de réhabiliter, Michael Sandel.
Exactement. In my philosophical writings, before these recent books,
philosophique avant ces livres plus récents,
I argued, just as you said,
je mets en avant un certain nombre d'idées, celles que vous avez évoquées notamment. Il y a une philosophie de la justice selon l'axe de l'utilitarisme, évidemment, mais je rejette également une certaine version du libéralisme. Je critique la version du libéralisme proposée par John Rawls, mais aussi par Habermas, mais sous une forme différente. Rawls et Habermas partagent l'hypothèse selon laquelle les débats sur la justice et la raison publique ne doivent pas avoir attrait à des questions controversées sur la signification de la vie bonne. Donc dans mes écrits philosophiques antérieurs, dont les lecteurs étaient davantage des philosophes, ce n'était pas des ouvrages grand public, donc j'arguais qu'il n'était pas possible de réfléchir à la justice ou au droit de façon neutre envers des conceptions concurrentes de la signification de la vie bonne. Donc c'est là que je m'inscris en désaccord avec le libéralisme d'un John Rawls ou d'un Jürgen Habermas. Et en critiquant ce point de vue-là, je disais qu'il faut prendre les conceptions de la vie bonne et il faut les inscrire directement dans le public, dans le débat public, même s'il est difficile de faire cela parce qu'on est souvent en désaccord sur cette vie bonne. Mais je ne crois pas qu'il est possible de mener un débat public sur des grandes questions de justice ou de bien commun ou du rôle du marché sans s'intéresser à des débats qui s'intéresse aux conceptions morales, la conception des questions de la vie bonne, et ainsi de suite.
Donc,
vous dites justement que je veux mettre en avant un troisième point de vue. Et là, il s'agit de vertus civiques que je voudrais promouvoir et certaines considérations de la vie bonne. Ainsi, ma perception va à l'encontre de l'utilitarisme et ça va contre le point de vue de Kant, qui est représenté par Rawls et Habermas. Moi, je puise ma réflexion chez Aristote, Rousseau et Hegel, je pense. Les trois pensaient qu'il était nécessaire de lier l'argumentation morale, la valeur de la morale dans une pratique plus pragmatique et dans le cadre d'un discours public.
On peut bien comprendre cette distinction entre les trois approches à partir de l'articulation entre le bien et la justice, que vous évoquez directement dans votre livre, Michael Sandel, et pour le communautarien que vous êtes, ce lien est constitutif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, comme l'a fait Rawls notamment, distinguer d'un côté la justice et de l'autre la conception du bien.
Oui, c'est ça.
Le problème étant de savoir comment peut-on s'accorder sur une notion du bien, dès lors que vous voulez prendre en compte les différentes discussions qui ont lieu dans la société, confronter différents points de vue sur ce que peut être une vie bonne.
Yes.
Mais pour que la justice puisse être mise en place, il faut bien s'accorder à un moment donné sur ce qu'on entend par la vie bonne. Ça paraît paradoxal.
Yes, yes, exactly. It's true that one motivation to try to separate.
Lorsqu'on essaie de séparer la justice de la conception du bien, on le fait pour arriver à une sorte d'accord sur des principes minimaux et on le fait parce qu'on essaye de faire en sorte que les valeurs de certains soient imposées à d'autres personnes qui ou à d'autres groupes qui ne partagent pas ces valeurs. À bien des égards, Le libéralisme qui vise un point de vue neutre envers le bien réagit à la préoccupation qu'il y a à faire venir le point de vue religieux dans la politique, où là, évidemment, il y a une abondance de possibilités de désaccord. Et je suis d'accord avec vous, il y a danger là. Cependant, je pense qu'il serait erroné de penser qu'il est possible de distinguer les convictions morales et spirituelles de notre définition d'une société juste. Et l'une des conséquences de la tentative du libéralisme de séparer la justice du bien était l'ouverture de la voie vers un manque de critique des marchés. Et donc on a aborder les marchés ainsi, sans aucune possibilité de critique depuis une trentaine d'années. Parce que, à moins d'avoir un débat public sur les biens et pratiques sociales qu'il faut régir ou non, étant donné le risque de dévoiement par les marchés, si on ne mène pas ce débat public, il est difficile de décider quelles doivent être les limites morales des marchés.
Mais puisque vous interrogez dans votre ouvrage sur ce que l'argent ne saurait acheter, c'est-à-dire sur l'existence d'un domaine ou d'un type d'objet qui ne tomberait pas sous le joug du marché et de l'économie, ou sur l'existence d'un tel domaine qui devrait ne pas tomber sous le joug du marché, pensez-vous qu'il soit possible, tout simplement, c'est très difficile, mais la question elle est simple, d'appliquer la morale à l'économie. Puisqu'une chose est d'en proposer une réflexion philosophique, une autre est d'en proposer une application dans le domaine économique.
Je crois que c'est possible et je dirais même que c'est nécessaire, c'est inévitable. Au cours des 30 dernières années, dans les sociétés démocratiques, nous avons fait montre d'une absence de critique et nous avons placé notre foi dans le fait que les marchés et les mécanismes des marchés constituent les instruments fondamentaux pour définir la justice et le bien commun.
Et
cette foi, erronée à mon avis, nous l'avons adoptée parce que les marchés semblaient apporter une façon neutre de trancher les questions controversées de la signification des biens et des pratiques sociales. Mais je pense que cette neutralité est fausse et dans les démocraties, nous avons vu que les marchés ne sont pas neutres s'agissant de la signification des biens et des pratiques sociales. Les marchés répondent à ces questions à notre place, alors que ces questions, à mon avis, doivent faire l'objet d'un débat public par les citoyens dans un cadre démocratique, bien qu'il puisse s'agir évidemment de questions formidablement controversées.
Alors prenons un exemple pour illustrer la manière dont vous montrez les arguments, les exemples que vous prenez pour illustrer la façon qu'a le marché de ne pas être cantonné à une certaine sphère de l'existence, dites-vous, mais au contraire, l'envahir à tel point que c'est l'homme lui-même qui devient comme un élément faisant partie intégrante du marché. On l'écoute tout de suite, c'est un extrait que vous allez reconnaître. Je ne sais pas si les auditeurs français le reconnaîtront, mais on en dit un mot dans un instant.
Oh, you see the traffic. The only thing moving is the carpool lane. I'll never make it. I'm just going to go home. I'm not going to use the carpool lane by myself, because I don't want to.
Hey, Daddy. You want a date with Mama?
Get in the car. So what's your name?
Monina. What you into today? A little lollipop love? A little digging for diamonds?
See, actually, I'm not really interested in any sex, per se.
What, you want them freaky motherfuckers or something?
To tell you the truth, what I'd really like to do is I want to go to Dodger Stadium, and I want to go to the game, and I'll pay you for your time. Maybe, 5 hours it'll be.
You just want me to sit in the car?
Just sit in the car. That's all you have to do.
Oh, you a crazy son of a bitch. All right. $1,000.
$1,000? What, are you kidding me?
That's
$200 an hour?
Exactly. I can get 4 blowjobs. An hour.
Four blowjobs in an hour?
Oh, yes, I'm good, okay.
Hey, I drove a cab. I used to drive around for 2 hours. I couldn't get a fare. You're telling me you're getting four blowjobs in an hour?
Yes, honey. You done picked up the best. Honey, I got a red snapper that talks to you.
You know what it's saying? I'm charging way too much.
$7.50 and take me to the game. I'm going to the game then.
À la page 53 de votre ouvrage, Michael Sandel, vous vous expliquez pourquoi vous prenez cet exemple. Vous dites dans un épisode de la série télévisée humoristique Curb Your Enthusiasm, c'est ce qu'on vient d'entendre. Je crois qu'en français, c'est Larry et son nombril. Hein. Et c'est même d'ailleurs le traducteur met une note, cache ta joie au Québec. Donc dans un épisode, Larry David, donc le personnage principal, imagine un moyen pécuniaire d'accéder à une VRVOM. Ce sont les voies réservées aux véhicules à occupation multiple. Constatant que l'autoroute menant au stade où les Dodgers de Los Angeles s'apprêtent à disputer un match de baseball est très encombrée, il rémunère une prostituée, non pas pour coucher avec elle, mais pour la transporter dans sa voiture jusqu'au stade. Et la circulation est effectivement assez fluide sur cette VRVOM pour qu'il ne rate pas le premier lancer. Vous vous servez de cet exemple, Michael Sandel, pour essayer de... C'est pour mettre en œuvre ce que vous appelez l'éthique de la queue. C'est the ethic of queue, yes. En anglais, n'est-ce pas?
Yes. Well, this is a funny example of using money.
Oui, c'est un exemple amusant qui montre que l'on peut utiliser, aux États-Unis du moins, de l'argent pour bénéficier de cette voie rapide où ne sont autorisés que les véhicules à occupation multiple.
Who have multiple passengers as a way of encouraging people to share.
Et donc, l'intention de ces voies rapides, c'est évidemment de pousser les gens à être plusieurs en voiture pour qu'il y ait moins de voitures sur les routes et pour que pour récompenser ceux qui agissent de la sorte. Et donc, vous avez évoqué le personnage donc recrute une prostituée pour être à ses côtés dans la voiture. Mais il y a une solution aujourd'hui qui est moins coûteuse et peut-être moins honteuse que celle qui consiste à se payer les services d'une prostituée. Dans de nombreuses villes aujourd'hui, il est possible de payer pour aller dans la voie rapide. On peut y aller gratuitement si on est plusieurs dans la même voiture, ou alors, si on est seul dans sa voiture, on peut payer un forfait pour y aller néanmoins. Alors ça pose une question, cette pratique-là quand même. Est-ce qu'on devrait donner le droit aux gens de payer pour aller au travail ou pour aller au stade de baseball plus rapidement que les autres? En réalité, la question est double, et c'est là que se pose la question philosophique. On pourrait dire que c'est injuste s'il n'y a que les riches qui peuvent se payer la rapidité ou qui peuvent avoir le coup de fil. C'est injuste envers ceux qui n'ont pas les moyens, évidemment. Mais au-delà de cette question de ce qui est juste ou inégal, on peut se poser la question suivante. Si on a un coup de fil, évidemment, ça risque de dévoyer ou de détériorer la pratique visant à évidemment réduire la consommation de carburant, préserver l'environnement et évidemment réduire les embouteillages. Et pour répondre à cette question-là, il faut se poser la question des normes sociales et civiques, et peut-être les normes environnementales d'ailleurs, qui sont en fait violées par cette solution imposée par le marché.
Mais vous évoquez ces normes environnementales ou d'autres types de normes. Il faut distinguer ici quand même les normes d'un côté et les valeurs de l'autre. En réalité, le conflit, il se situe en certaines normes dont la valeur n'a pas été questionnée et les valeurs que vous voulez réinjecter de manière à ce que, avec cet exemple assez prosaïque des coupes-files et donc du nouveau droit qui se met en œuvre parce que les gens plus riches peuvent aller plus vite que les autres, qui illustre à sa manière la perte de certaines valeurs qui auraient été remplacées par d'autres propres marchés et avec lesquelles vous êtes en désaccord.
Prenons un autre exemple pour illustrer cette distinction. Et restons dans l'environnement. La préservation des espèces menacées. En Afrique, le rhinocéros nord, vous le savez, est une espèce menacée. Et les pays africains ont du mal à protéger le rhinocéros noir contre les braconniers.
Donc,
certains pays africains ont adopté une solution de marché. Il s'agit de lever des fonds. Et la Namibie, par exemple, met aux enchères le droit qu'aurait un chasseur chaque année de tuer un rhinocéros noir. Moyennant une forte somme d'argent. Une enchère a été organisée récemment en Namibie. Et l'enchère la plus élevée, 350 000 $, a été payée par, ce n'est guère étonnant, un Texan, un chasseur texan. Donc voilà, une personne disposée à payer 350 000 $ pour avoir le droit de tuer un rhinocéros noir, espèce menacée, mais la logique de marché, c'est que l'argent est utilisé pour mener des efforts de protection de l'environnement et donc protéger les autres rhinocéros. Que penser de tout cela ? Si on est contre, on peut dire que les chasseurs fortunés ont plus de chances que ceux qui ne le sont pas. Mais de manière plus profonde, on pourrait dire que l'on dévoie la valeur qu'il y a à respecter cette espèce menacée.
On
va à l'encontre de cette valeur. En effet, on vend le droit de tuer cet être vivant que l'on vise à protéger et que l'on doit respecter dans un cadre éthique beaucoup plus vaste, évidemment. Respect envers l'environnement et les êtres vivants. C'est ça que j'entends par cet argument de dévoiement ou de détérioration de la valeur. Et c'est indépendant de la question d'inégalité.
Oui, vous dites que c'est un des arguments de la corruption. Vous en prenez deux majeurs dans votre ouvrage par rapport à l'inquiétude de l'invasion du marché à d'autres sphères. La corruption d'un côté et l'inégalité de l'autre. Vous l'avez rapidement évoqué avec l'exemple du coup de fil. Mais si on s'arrête un instant sur celui de la corruption, par exemple, ça veut dire que l'avènement du marché capitaliste serait venu corrompre certaines valeurs, en l'occurrence le respect des animaux, des rhinocéros noirs, vous venez d'en parler, qui avant auraient été davantage respectées. Est-ce que vous pensez, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion qui serait quasiment historique, est-ce que le capitalisme, pour le dire très clairement, et très grossièrement sans doute, serait venu corrompre une certaine vertu, une attitude morale, qui aurait été celle des gens avant l'ère du capitalisme et qui désormais serait complètement perdue, et il faut, dans la appelleriez en ce sens à un retour des choses ? Ou bien est-ce que ce que vous dites, c'est non, cette vertu qui nous manque, cette définition de la vie bonne qui nous manque, nous ne l'avons jamais vraiment eue, et le capitalisme nous en éloigne encore plus.
Right, more the second. Pareil, more the second. My argument is not an exercise
in nostalgia. Plutôt la seconde proposition, parce que mon livre n'est pas du tout un livre de nostalgie. Lorsque je fais référence au fait qu'il y a des normes qui sont corrompues par des mécanismes de marché ou des logiques de marché, je ne veux pas pour autant faire montre de nostalgie ou de survaloriser les normes du passé, ou le passé en général, parce que certaines normes du passé étaient tout de même peu respectables. Donc moi je me préoccupe du fait que tout est marchandisable et cela peut donc corrompre certaines normes. Mais vous avez raison, c'est la seconde idée qui me pousse à dire cela. Il s'agit d'identifier les valeurs qu'il faut affirmer. Il ne faut pas simplement mettre en lumière des normes du passé. Ça, ce serait de la nostalgie, ni plus ni moins. Je crois que nous devons réfléchir à l'argument moral en faveur des valeurs qui sont en concurrence avec le capitalisme, pas simplement pour mettre en lumière et célébrer les normes du passé. Si j'ai bien compris l'alternative que vous me proposez.
Absolument, vous l'avez complètement comprise. Mais dans ce cas, si je peux, pour essayer de mieux comprendre votre démarche, je vous propose quelques objections pour mieux comprendre votre position. Vous avez forcément un présupposé, un postulat anthropologique. L'homme est bon par nature puisque vous pensez qu'il peut en discutant, en confrontant ces conceptions de la vertu, se détourner d'un mode de fonctionnement qui est celui propre au marché capitaliste, pour finalement parvenir à autre chose. Et pourtant, c'est lui, ça veut dire le marché n'est pas sorti de nulle part. Ce sont les hommes ensemble aussi qui ont produit ce marché-là.
Right. I don't want to make a claim that human beings by nature are good
en rien
such that,
que l'être humain est bon au point que s'il réfléchit, il arrivera automatiquement à une bonne compréhension des valeurs.
Ça se saurait, on l'aurait déjà fait, hein.
Because you're quite right. Human beings have created institutions and ways of thinking.
L'être humain qui a créé des institutions, des modes de réflexion dont certaines sont bonnes et d'autres le sont moins.
What I'm suggesting is that we need a different kind of public discourse.
Moi, j'explique qu'il faut un discours public différent. Discours public qui s'attaque plus directement à la conception du bien et de la vertu. Plutôt qu'un débat public qui évite ces questions. Non pas parce qu'on pense qu'on va être en accord, mais au contraire, il est fort probable qu'il y aura des désaccords. Non pas parce que cela garantisse qu'à aucun moment il y aura une société qui trouvera la bonne réponse. Ça, c'est pas du tout garanti, loin de là. Mais pour autant, le fait de se lancer dans un débat public avec un engagement moral sur les marchés et sur la justice d'une façon générale, ça permettra tout de même d'avoir une citoyenneté démocratique de meilleure qualité. Et à tout le moins, ça nous donnera la possibilité de limiter cette dépendance sur les mécanismes de marché auxquels nous nous livrons sans la moindre réflexion depuis quelques décennies. Et je crois que cela constitue le seul espoir de laisser les marchés à leur place, là où ils doivent être. Nous devons déterminer là où le marché sert le bien public et là où le marché nuit à la société. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune garantie si on se lance dans ce débat public. La philosophie ne propose pas de garantie et le discours public non plus.
If we have a public discourse that is
en revanche,
as empty,
si le discours public est aussi vide ou superficiel que celui que l'on connaît dans la plupart des démocraties aujourd'hui, si nous nous en tenons à des discours publics de type technocratique ou purement managérial, eh bien, dans ce cas-là, il est assez patent que la démocratie ne fera que continuer à sombrer comme elle le fait aujourd'hui.
We reimburse hospitals for the amount of time that you're there without checking to see if they're doing a good job in the first place. So they have no penalty. If you go into the hospital, they're supposed to fix you. Suddenly you have to go back 3 weeks later. That hospital gets paid all over again, even though they didn't get it right the first time. Now, if you got your car fixed at a mechanic, and 3 weeks later, you had to go back and you had to pay again to get your car fixed all over again, you'd be pretty mad. And yet, when it comes to healthcare, that happens all the time. That happens all the time, and the hospital gets reimbursed for the second time or the third time, even though they didn't get it right the first time. And so what we're saying is, let's incentivize the hospitals. We'll pay you a little bonus if the person's not readmitted because you got it right the first time. That will save money over the long term. Those are the kinds of changes we're talking about.
Vous prenez cet exemple de Barack Obama et Michael Sandel dans le deuxième chapitre de votre livre « Politique économique de l'incitation ». Vous commentez ce néologisme, on l'a entendu ici, il le prononçait, hein, c'était en 2009, lors de son discours sur le healthcare reform, les réformes concernant la sécurité sociale. Il parle de incentivize, ce qui est un verbe, donc the incentive qu'on pourrait traduire, je me tourne vers Xavier Combe, votre traducteur.
Une mesure d'encouragement.
Voilà, et il en fait un verbe en fait, et c'est ce que vous montrez, c'est ce qui fait que dans son discours, l'air de rien, l'air d'utiliser un terme normal, il sous-entend une forme d'encouragement vers une attitude. C'est un discours en réalité qui se présente comme étant neutre et qui est normatif.
Yes.
Et pour vous, c'est un exemple de la propagation de la logique propre au marché au sein du discours public, en l'occurrence du président de la République.
Exactly. So this word incentivize. is now a part of the common parlance
to incentivize
politicians,
est désormais utilisé par les responsables politiques, les chefs d'entreprise, les bureaucrates, les éditorialistes.
Mais
ce verbe montre la compréhension des choses dans le prisme économique. Et c'est ainsi, c'est par le prisme économique que l'on analyse le discours public. Et évidemment, ça l'appauvrit, ce discours politique. Dans cet extrait, Obama essaye de convaincre les Américains
healthcare reform.
D'accepter sa réforme
and
des services
I don't
de santé.
Et anyone would be persuaded
je ne pense pas qu'on puisse être convaincu par cette argumentation technocratique qu'il vient de nous livrer. Parce qu'il passe à côté de quelque chose, il passe à côté d'une question morale encore plus fondamentale, à savoir...
What are our obligations to one
Quelles
another
sont nos
as
obligations les uns envers les autres en tant que concitoyens? Les services de santé doivent-ils être prodigués selon ce que les gens ont dans leur portefeuille ou selon leurs besoins médicaux? C'est ça la grande question morale, c'est une question de principe qu'il faut se poser. Et c'est la question qu'il faut se poser dans le cadre de cette tentative de réforme des services de santé aux États-Unis. Les opposants républicains d'Obama, qui étaient contre cette réforme, on le sait, ont dit qu'il y avait une certaine conception de la liberté qu'il fallait respecter. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec leur point de vue. Mais ils mettaient en avant la liberté, évidemment, le fait de faire payer les riches par solidarité constitue la violation de la liberté des contribuables. Enfin, voilà le discours des républicains. Et à l'encontre de cela, l'argumentation aurait dû être la suivante. Nous avons une responsabilité morale partagée pour, comme membre d'une société juste et nous devons nous assurer que personne ne souffre de problèmes de santé sous prétexte qu'on n'a pas les moyens d'aller voir un médecin. C'est un argument moral, c'est un argument de vertu civique. C'est un argument de partage de responsabilité, de solidarité les uns envers les autres. Mais comparons cet argument moral à la superficialité technocratique d'Obama qui veut encourager les hôpitaux à apporter des soins de qualité et de rembourser selon des modalités différentes. C'est une des raisons pour lesquelles la réforme a eu tant de mal à aboutir aux États-Unis, pour si tant est qu'elle ait abouti. Donc, je ne suis pas en train de critiquer Obama, je suis en train de montrer que ces caractéristiques de ces idées qui dominent le discours public au même titre que les mécanismes de marché, et ce, dans la plupart des démocraties, depuis une trentaine d'années.
Et en même temps, quand on vous intéressait à la question de la politique et des gouvernants politiques, on mesure aussi les effets que peuvent avoir la réintroduction de la morale au sein de ces discours-là, puisque certaines politiques ont été menées en brandissant une morale, on peut être extrêmement dangereuse pour chaque individu et pour l'ensemble des pays. Quand on introduit la morale de manière explicite en politique, c'est pas toujours dans l'intérêt du bien des citoyens, ce que vous recherchez quand même. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas de toute façon une incompatibilité de nature entre une réflexion morale qui prend du temps, qui passe par la discussion, la confrontation du point de vue, et l'urgence politique qui conduit sans arrêt, que ce soit Obama ou un autre président, à devoir prendre des mesures, des décisions qu'il a à peine le temps de mettre en œuvre. L'écart est très grand entre les deux. Donc est-ce que, ce que vous proposez ou l'appel que vous faites à une réinjection de la morale dans l'économie, dans la politique, est-ce que c'est pas plus une direction à suivre, mais qui est presque utopiste? On pourrait vous faire le reproche du caractère irréaliste de la...
I don't think it's utopian.
Utopiste, non, je ne pense pas.
I think that a technocratic... managerial language and
qu'un langage politique de nature managériale ou technocratique semble certes plus réaliste, plus pragmatique, un langage moins controversé, si vous voulez, et vraisemblablement moins dangereux, moins enclin au désaccord fondamental. Eh bien, ce langage mène à une impasse. Regardons la politique américaine. Nous sommes dans une espèce d'impasse. C'est pas comme si le langage technocratique s'est montré comme étant la solution pour rassembler les gens et pour arriver à une parfaite cohésion de la société américaine. Au contraire, le langage politique a mené une impasse politique et on arrive à très peu de choses, on avance très peu. Et cela s'applique aux démocraties d'une façon générale. Les citoyens sont frustrés par la politique et les responsables politiques et par leur discours politique. Ces citoyens ne trouvent pas de stimulation ou d'intérêt à ce discours technocratique managérial. Cela ne constitue pas un moyen de jeter des passerelles entre les différents. Ce discours politique technocratique a au contraire mené à une désaffection, une insatisfaction envers la politique. Et on assiste à ce phénomène dans de nombreuses démocraties modernes. Les gens veulent que la politique porte sur les grandes questions, y compris les grandes questions de valeur, d'éthique, de justice, le bien commun, la signification de la citoyenneté. Ainsi, même d'un point de vue purement pratique, je pense qu'il serait préférable de se lancer directement dans ce débat avec ces grandes questions éthiques. C'est pas comme si ce discours politique vide et qui est mené par les mécanismes de marché ait quand même produit des résultats impressionnants. On peut quand même pas dire ça.
Mais en ce sens, dans ce cas, c'est un problème qui est inhérent à la mise en œuvre et à l'exercice même de la démocratie. Ce que vous dites là, la question de l'économie de marché, elle est quasiment secondaire. Vous pointez les dysfonctionnements, les vices sans doute d'un système, d'une manière de gouverner, de voter, de vivre ensemble au sein d'une démocratie qui conduit parfois à un désintérêt, mais ça a déjà été montré depuis longtemps, parfois un désinvestissement de la vie politique. Est-ce qu'on peut tout remettre sur le compte du marché?
Well, that's it exactly. I think part of the appeal of relying on markets.
On a tendance à compter sur les marchés, on a tendance à avoir foi en le marché, non pas parce que l'on pense que les marchés nous prodiguent des biens et permettent la croissance, mais cette foi auquel on assiste au cours des 30 dernières années repose sur l'hypothèse que les marchés sont des instruments neutres envers la valeur et qui décident à notre place sur les grandes questions sans que nous ayons à nous soucier de ces grands débats sur la vie bonne ou la vertu ou d'autres grandes questions. Mais évidemment, ce point de vue, cette confiance aveugle est erronée. Nous devons surmonter cette foi aveugle. Les marchés ne sont pas neutres envers la valeur et l'économie elle-même n'est pas une science neutre de l'étude du comportement humain et des choix sociaux. Dans les origines classiques de la réflexion économique, que ce soit Adam Smith ou Karl Marx, malgré leurs différences idéologiques, ils partagent la compréhension du fait que l'économie ne constitue pas une science neutre envers les valeurs. Ce n'est pas une discipline distincte des autres, qui n'est pas dans une bulle. C'est au contraire une branche de la philosophie morale et philosophique et sociale. Ensuite, il y a eu une distinction, il y a une séparation d'avec la philosophie morale et nous devons relier à nouveau l'économie avec la politique morale et il nous faut un débat public sur des questions aussi importantes que celles de la vie bonne.
Alors peut-être, il nous reste peu de temps avant la fin de cette émission, faisons encore un pas en avant. Quelle est la définition de la vie bonne que vous proposez dans ce cas?
Well, I think we have to look, when we're discussing what should be the role of markets, where does market reasoning belong and where does it get damaged?
Où est-ce que le marché produit des bienfaits et où est-ce qu'il résulte en dégâts? Par exemple, prenons le domaine de l'éducation. Faut-il rémunérer les étudiants? Faut-il leur faire des mesures d'encouragement pour qu'ils étudient, pour qu'ils aient de bonnes notes? Faut-il les payer pour qu'ils lisent des livres? Il y a des municipalités qui font cela. Il y a une objection que l'on peut faire. C'est qu'en fait, on va leur enseigner la mauvaise leçon. Ça va enseigner aux élèves le fait que lire, on lit pour gagner de l'argent plutôt que par amour de la lecture. Mais dire qu'il y a une raison noble et une raison mercantile à étudier, ça nécessite une bonne perception de la motivation qu'il y a à mener des efforts en matière d'éducation. Pourquoi est-ce qu'on éduque les gens? Quel est le kilos, en quelque sorte, de l'éducation? Donc, nous devons raisonner sur le bienfait de l'éducation pour déterminer le rôle des marchés et des mesures d'encouragement, ou s'agissant des soins, les services de santé, par exemple, on en a parlé. Il faut voir la signification de la santé comme faisant partie de la vie bonne. Et c'est ainsi que nous pouvons décider si oui ou non il faut un marché des reins, un marché de la transplantation. Il faut un débat public pour savoir ce que c'est le respect du corps humain. Eh bien, ainsi, nous devons bien définir ce qu'est l'être humain par rapport à cette vie bonne et le rôle que doit y jouer le corps humain. Est-ce que la grossesse pour autrui peut être gérée n'importe comment? Non, il faut un débat sur la signification de la procréation et de la grossesse. Évidemment, nous avons des points de vue divergents sur ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Donc, il ne nous faut pas de la théorie sur le bien. Ce qu'il nous faut, à tout le moins, en première intention, si je puis dire, il nous faut un débat sérieux sur la signification du bien dans le domaine de la famille, de l'éducation, de la santé, de la politique, de la loi. Et si on peut générer un discours public de ce type, peut-être qu'à terme, nous arriverons à définir ce qu'est la vie bonne, pour répondre à votre question.
Comment concrètement mettre en place ce genre de discussions qui peuvent permettre à une définition, une esquisse de définition de ce qu'est la vie bonne? Un philosophe comme Habermas s'est posé la question et a écrit de nombreux textes sur la façon dont ces discussions pouvaient être conduites, menées, le moment, l'endroit. En tout cas, dans votre dernier livre, vous n'abordez pas cette question-là. Alors, comment pouvez-vous y répondre?
Right. I agree with Habermas that public discourse
je suis d'accord avec Habermas pour dire que le discours public est très important, mais je suis en désaccord avec Habermas lorsqu'il dit que la raison publique doit se limiter en évitant les questions de la vie bonne ou de questions métaphysiques et spirituelles, comme il dirait Habermas. Moi, je rejette les limites. Mais où commencer pour répondre à votre question? Eh bien, Socrate, lui, se promenait dans les rues d'Athènes. Il allait se rendait au Pirée. Et là, il lançait avec des dialogues philosophiques avec les citoyens qu'il croisait là. Nous, à notre façon, nous devrions ramener la philosophie sur Terre, au cœur de la vie de la cité. Vous voyez que je reviens à Socrate et la façon dont il a lancé la tradition de réflexion philosophique. Et nous devons commencer à encourager un discours public raisonné sur les grandes questions. Dans la pratique, nous avons besoin d'aide d'institutions de hautes études pour que les étudiants aient la possibilité de débattre des grandes questions éthiques. Nous devons transformer les médias pour que les médias soient un forum pour ce type de débat. Nous devons nous tourner vers des institutions de la société civile, y compris les mouvements sociaux, pour poser de grandes questions sérieuses d'éthique, pour forger notre vie civique. Et à terme, au bout du compte, peut-être, si nous faisons bien notre travail, selon ces différentes étapes que je viens d'évoquer, peut-être que les responsables politiques et les partis politiques pourront se rendre compte qu'eux aussi doivent aborder ces questions qui sont particulièrement négligées par eux à l'heure actuelle.
En tout cas, cette éthique de la discussion, y compris philosophique, c'est celle qu'on essaye de mettre en œuvre tous les jours ici au Nouveau Chemin. Alors, je vous remercie beaucoup, Michael Sandel, d'être venu nous parler aujourd'hui.
Thank you very much.
Un grand, grand merci. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « Ce que l'argent ne saurait acheter ». C'est le titre en français avec une préface de Jean-Pierre Dupuis qui est publié au Seuil. Et un grand merci à Xavier Combe, à ma gauche, qui a assuré la traduction courte à entretien. Cette discussion était en réalité à trois voix. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Buy me love. Love. Buy me love. Et je tiens à remercier à l'issue de cette émission Géraldine Bosna-Savoie, sans qui cette discussion avec Michael Sandel n'aurait jamais eu lieu. Merci Géraldine pour cette préparation et la parole est à vous, c'est l'heure de vous retrouver pour vos deux minutes papillon. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Pour faire le lien avec votre discussion à l'instant avec Michael Sandel, une sphère touchée par l'argent, eh bien c'est peut-être celle de la pop culture. Enfin, c'est généralement l'idée qu'on s'en fait. Mais la pop culture ne se définit-elle que par le succès commercial ? Réponse à l'occasion de la parution de Pop Culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités de Richard Memto aux éditions de La Découverte. Les Cultural Studies, toutes ces études critiques et transdisciplinaires de la culture, ont fait leur apparition dans les années 60-70, en pleine explosion de la culture populaire, avec tout ce que ça implique de restructuration politique et économique, mais aussi d'interrogation sur ce qu'est la culture populaire. Et bien c'est précisément cette démarche, interroger la culture pop, que Richard Memto adopte dans son ouvrage paru aux éditions de La Découverte. On peut dire qu'il l'adopte, car il ne fait pas que s'interroger sur un objet, il y a en effet un certain style dans ce livre, un ton, une manière de parler qui laisse la place à des expériences personnelles, à des questions aussi cruciales que « doit-on encore aimer un groupe indé devenu commercial ?» et qui laisse la place aussi à des citations de pop stars, par exemple. Et ces incursions n'ont rien d'anecdotique. Elles témoignent justement de ce qu'est la culture pop et de son influence sur la démarche philosophique. D'abord, elles montrent que s'interroger sur la pop produit une modification de la méthode. Comme le terme pop l'évoque, cet ouvrage pétille. Il explose de références musicales, cinématographiques et scientifiques, toutes mises au même plan, sans hiérarchie, du moins pour étudier l'objet pop. Ensuite, et c'est là aussi un des plaisirs de cet ouvrage, il nous parle. Avec toutes ces références, il nous touche directement, nous, public de la pop culture. Et c'est bien l'enjeu de cet ouvrage, définir le sens de ce populaire, de ce peuple, de ce nous, en allant au-delà des préjugés de l'homogénéité et de la masse. Et si la pop était en effet le moyen de créer une identité commune ? Je rappelle le titre de l'ouvrage, c'est Pop Culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités, c'est de Richard Memto et c'est paru aux éditions de La Découverte.
Merci Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve la semaine prochaine pour une série d'émissions consacrées au philosophe Aristote, notre maître à penser de la physique à la métaphysique, du traité de l'âme aux politiques. La semaine prochaine, Aristote, retour aux sources. Et si d'ici lundi, vous ne pouvez vraiment pas vous passer de philosophie, rendez-vous dimanche à 16h pour Le Gai Savoir de Raphaël Antoven avec Paola Reimann. Raphaël et Paola vous proposeront ce dimanche une nouvelle écoute d'une émission consacrée à l'homophobie, généalogie d'une haine ordinaire. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et vous pourrez surtout la télécharger et la podcaster pendant 1000 jours afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.
Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Mais pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54. C'est l'heure de retrouver Christophe Honodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.